Ah, te voilà, je commençais à m'inquiéter.
Bon, maintenant, montons à l'abordage, car la passerelle est vraiment encombrée. Nous allons sûrement nous faire bousculer. Cramponne-toi!
S'il vous plaît, monsieur, où se trouvent les cabines de deuxième classe?
Au deuxième étage, c'est-à-dire descendez un étage, ici c'est le troisième, passez par cette coursive, à droite. Oui, moins on paye d'or, plus on est bas dans un bateau. C'est à l'image de l'échelle sociale. Les troisièmes classes couchent dans les étages inférieurs.
Tu oublies que la classe pont se trouve au dernier étage et que c'est celle des passagers qui voyagent sans cabine, sans abri, sous les orages et sous les étoiles.
Oui, ils dorment sur le pont supérieur. Ils peuvent grimper le long des mâts dans le gréement et être les premiers à crier terre.
Ah, je vois que c'est dans ce couloir. Voilà notre numéro, enfin. Je commence à en avoir assez de porter ma valise. Elle est lourde et je n'ai pourtant rien à me mettre.
Quelle est petite pour deux personnes, cette cabine.
Mais très mignonne. Il y a un lavabo et dans le coin un canapé avec une petite table basse.
Regarde, les verres sont fixés pour ne pas tomber quand il y a du roulis par gros temps.
Par le hublot, on voit la mer, ou plutôt pour le moment un peu d'eau sale tachée de mazout. Si jamais nous avons une tempête en mer, nous verrons les grosses vagues déferler par ici et battre contre le flanc du bateau.
Et il faudra fermer, bien sûr, pour que des paquets de mer n'entrent pas par le hublot.
Mais qu'y a-t-il donc tout en haut de l'armoire? Un passager se serait-il déjà installé dans notre cabine?
Que tu es bête, ce sont nos gilets de sauvetage. Et dans ce coin sont affichées les instructions en cas d'alerte. Prends-en note. D'ailleurs, les 3 premiers jours, nous aurons des exercices et des répétitions générales. Vraiment, chacun devra monter sur le pont à la place qui lui est assignée et se mettre aux ordres de son chef d'équipe, chargé de distribuer les places dans les chaloupes de sauvetage.
Quelle horreur! Dire qu'on pourrait avoir une tempête. Moi, les plus petites vaguelettes me donnent d'avance le mal de mer. J'espère que je supporterai le tangage.
Oui, bien sûr, tu n'as pas le pied marin. Moi, même un cyclone ne me ferait pas peur. D'ailleurs, si je ne m'intéresse pas aux machines, j'aimerais cependant bien tenir le gouvernail. Peut-être pourrons-nous demander au capitaine ou à son second quelques explications sur le fonctionnement et la marche du bateau?
Tiens, j'entends la sirène et le ronflement des machines. Le départ doit être imminent. Vite, sortons de cette cage à lapins. Allons respirer le grand air et regarder le quai s'éloigner.
Tu sens comme le bateau tremble? Nous levons l'ancre.
Les gens agitent leurs mouchoirs.
Le temps est marin, le sel vous colle à la peau.
Personne n'est venu nous dire au revoir.
Bah, je ne regrette pas, il reste à travailler. Ça leur aurait fait trop de peine de nous voir partir en vacances. Nous irons à la poste du bateau envoyer un télégramme à nos amis. Au bord de la mer. Les Durand, revenus de vacances, rendent visite au Dupont.
Madame Dupont. Oh, chers amis, que c'est gentil à vous de nous avoir envoyé une carte de dinars. Je voulais toujours vous écrire, mais sur le littoral méditerranéen, le soleil est si chaud, la mer si bleue qu'on devient paresseux. Madame Durand. Sur la côte de la Manche, c'est tout le contraire. Les jours où il n'y avait pas de tempête, les enfants avaient tout juste le temps de faire une trempette. L'eau était si froide qu'ils étaient transis. À marée haute, il n'y avait plus de plage. À marée basse, il fallait aller chercher la mer à 100 mètres des cabines et des tentes.
Monsieur Durand. Allons, on n'exagère pas. Il y a eu quelques belles journées où nous avons fait du yachting. Les jours où la mer était démontée, je me baignais quand même. C'est très amusant de se laisser porter par les vagues, aux crêtes blanches d'écume.
Madame Dupont, c'est que vous êtes un bon nageur.
Monsieur Dupont, je trouve que c'est plus intéressant de nager loin de la plage sur une mer d'huile. On peut se reposer en faisant la planche, se livrer à la pêche sous-marine avec un harpon.
Madame Dupont, et le jour où le courant t'a emporté au large et sur ton matelas pneumatique?
Monsieur Dupont, mais je n'aurais pas coulé à pic. Je sais nager le crawl, la brasse papillon.
Madame Durand, mon mari, lui, ne quittait guère la grève. Le plus souvent, pour se réchauffer, il jouait au water-polo, au volley-ball. Les enfants faisaient des pâtés, des châteaux de sable. Ils cherchaient des coquillages et des algues. Madame Dupont, les miens barbotaient toute la journée ou se doraient au soleil. Ils ont bien bruni. Madame Durand, on le voit, ils n'ont pas encore perdu leur hâle et vous non plus, ma chère.
Monsieur Dupont, pas étonnant. Ma femme était allongée toute la journée dans un transatlantique sans même un parasol.
Madame Dupont, je surveillais les ébats des enfants.
Monsieur Dupont, c'est ça, les yeux fermés.
Madame Dupont, je ne pouvais pas tout le temps t'admirer sautant du plongeoir.
Monsieur Durand, ma femme, elle prend des bains de mer sans nager ni plonger. Elle n'a pas le pied marin. Quand nous faisons du canotage, elle a immédiatement le mal de mer. À peine avons-nous quitté le débarcadère qu'elle réclame de retourner à terre.
Madame Dupont, mon mari peut pagayer en périssoir pendant des heures tout seul. Mais si nous embarquons ensemble sur une vedette ou un canot automobile, dès qu'on a levé l'ancre, il s'inquiète de la moindre houle. S'il y a un peu de roulis ou de tangage, il pâlit, verdit, ne quitte plus du regard les ceintures et gilets de sauvetage.
Monsieur Dupont, Ah, c'est que je suis père de famille et me rends compte du danger que courent les miens.
Monsieur Durand.
Mais quel danger peut-il y avoir en Méditerranée? Parlez-moi de l'Atlantique, des vagues hautes de plusieurs mètres, des écueils, des récifs, des épaves dans des anses ou des criques sauvages.
Monsieur Dupont. En Méditerranée aussi, même dans une calanque assez tranquille, on peut être blessé par les galets.
Madame Durand. Ah, il y a des plages de galets sur la côte d'Azur? Madame Dupont. Très peu. Les autres sont de sable fin. Le seul inconvénient, c'est qu'entre le 14 juillet et le 15 août, on peut à peine y trouver une place assise tant il y a de baigneurs et d'estivants. Madame Durand. Tandis que les grandes plages de l'Atlantique et de la Manche sont immenses à marée basse et lavées tous les jours par la mer. Madame Dupont. Il y a parfois des sables mouvants, peu de soleil et beaucoup de vent.
Monsieur Durand. Ah, par contre, la teneur de l'eau en sel et en iode est très élevée.
Madame Dupont. Vous défendez bien les plages du Nord. Et où irez-vous l'été prochain?
Monsieur Durand, mais dans le midi. La Ve République a rendu la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. L'enseignement dépend entièrement du ministère de l'Éducation nationale et dans toute la France, les écoles de même nature ont les mêmes programmes scolaires. Des modifications profondes de la société contemporaine ont amené des réformes radicales dans l'enseignement. Nous avons prié M. Perrier, professeur au lycée Condorcet à Paris, de nous décrire la vie scolaire française. Il nous a dit « Prenons mon fils Jean. Il est déjà allé à l'école à l'âge de 2 ans. De 2 ans à 6 ans, il a fréquenté l'école maternelle. Là, il a un peu appris à lire, à écrire et à calculer. Comme la majorité des enfants, il est entré à l'école à 6 ans. Jean est maintenant à l'école primaire élémentaire. Elle dure 5 ans. Aujourd'hui, mon fils a 9 ans. Ses maîtres l'observent pour voir quel type d'enseignement convient le mieux à notre enfant. Quand il aura 11 ans, Jean entrera comme les enfants de son âge, dans l'enseignement secondaire, premier cycle, en classe de 6e. Le premier cycle comporte 4 ans. Jean pourra les passer soit dans un CEG, un collège d'enseignement général, soit dans un CET, un collège d'enseignement technique, en général, un CES, collège d'enseignement secondaire. Dans le second cycle, qui dure 3 ans, Jean sera dans un lycée classique ou technique. Le lycée technique est quelque chose de relativement nouveau et veut conduire à l'université des jeunes gens particulièrement doués pour les choses techniques. Si mon fils est dans un lycée technique, qui s'appelait d'ailleurs autrefois École nationale professionnelle, il peut en sortir à 18 ans comme technicien supérieur breveté, et son diplôme sera du même niveau que le baccalauréat qu'il obtiendrait s'il était dans un lycée. L'élève peut passer d'un type d'école à l'autre aussi longtemps qu'il n'a pas dépassé l'enseignement du premier cycle. Après celui-ci, il restera encore 3 ans au lycée, donc dans le deuxième cycle de l'enseignement secondaire, classe de seconde, première et terminale, jusqu'à l'examen du baccalauréat. Le baccalauréat. Examen final du lycée, le baccalauréat est devenu l'un des grands problèmes nationaux. Depuis quelque temps, il est l'objet de vives critiques, de réformes fréquentes. Certains publicistes exigent même sa suppression. Jusqu'en 1964, cet examen était double. À la fin de la classe de première, 6e année du lycée, l'élève passait un premier examen pour entrer dans la dernière classe du lycée. Elle était appelée, selon la matière qu'on y étudiait le plus, classe de philosophie, de mathématiques ou de sciences expérimentales. Les élèves les appelaient philo, mathélem, sciences ex. À la fin de cette année, l'élève faisait la deuxième partie du baccalauréat. Depuis 1965, l'élève de première, dont les notes de composition sont suffisantes, passe sans examen dans la dernière classe du lycée, la classe terminale, qui mène au baccalauréat. Le baccalauréat sanctionne les études du second degré enseignement long. Il est le premier des grades universitaires et, à ce titre, cet examen est placé sous le contrôle des facultés. À l'issue des épreuves écrites et orales, sont admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Bien que quelques diplômes soient actuellement admis en équivalence, le baccalauréat reste le titre le plus généralement exigé pour se faire inscrire dans les facultés, pour pouvoir entrer dans les classes préparatoires aux grandes écoles, enfin, d'une manière générale, pour entreprendre des études supérieures. Le certificat de fin d'études secondaires. Ce diplôme est délivré depuis 1966 aux candidats refusés au baccalauréat, mais ayant obtenu aux épreuves écrites une moyenne au moins égale à 8 sur 20. Il ne confère aucun droit pour entrer dans un établissement d'études supérieures. Dans le cadre des réformes envisagées en 1968, un certificat de fin d'études secondaires pourrait, dans l'avenir, être décerné aux élèves à la fin de la classe de première. L'enseignement supérieur. Il revêt deux aspects. L'étudiant, après avoir passé le baccalauréat, peut se diriger soit vers une université, soit vers une grande école. L'université est divisée en plusieurs UER, unités d'enseignement et de recherche. Les étudiants y préparent chaque fois avec un examen, d'abord le DUEG, diplôme universitaire d'études générales au bout de 2 ans, ensuite une licence après 3 ans d'études, puis une maîtrise après une année d'études supplémentaires, et enfin un doctorat qui, en France, est un titre très peu courant et donc très apprécié. Le concours d'agrégation, ouvert aux titulaires de la maîtrise, permet aux candidats d'être reçus professeurs dans l'enseignement secondaire. En droit, en médecine et en pharmacie, cet examen autorise à enseigner en faculté. L'agrégation constitue un très haut titre d'ordre professionnel, mais non un grade universitaire. Le concours de CAPES pourvoit aussi au poste d'enseignement dans le second degré, mais avec une qualification un peu moins poussée. Parallèlement à l'université, qui ressemble beaucoup aux universités des autres pays d'Europe, il existe en France de nombreuses grandes écoles qui forment des ingénieurs, des cadres ou de hauts fonctionnaires. On peut citer entre autres l'École polytechnique, l'École normale supérieure, ENS, l'École nationale d'administration, l'ENA, l'École des hautes études commerciales, HEC, l'École des mines, à Paris, Nancy et Saint-Étienne, l'École des ponts et chaussées, l'Institut national agronomique, l'Agro, l'École supérieure des beaux-arts. La durée des études dans les grandes écoles est en général de 3 ans. Mais comme le concours d'entrée est très difficile, la proportion de ceux qui y réussissent varie de 1 sur 5 à 1 sur 10. La préparation au concours d'entrée se fait dans les classes préparatoires de grands lycées de Paris et de province et dure en général 2 ans.
Alors, Sacha, qu'est-ce que vous dites de Paris?
Oh, je m'y plais beaucoup. Mais qu'en dire au bout de 3 jours? Ce soir, je voudrais aller au cinéma. Pouvez-vous me conseiller dans ce domaine?
Je vais essayer, mais ce n'est pas facile. Tout d'abord, tout dépend du prix que vous voulez mettre, du genre de film que vous aimeriez voir, et si vous souhaitez voir un film nouveau ou ancien.
J'aimerais surtout voir un bon film, et si possible, pas trop cher.
Alors, éliminons tout de suite les films nouveaux qu'on donne en exclusivité dans quelques salles. Beaucoup de ces salles chères se trouvent sur les Champs-Élysées. Mais les meilleurs de ces films sont souvent projetés dans des cinémas de la rive gauche, notamment au Quartier Latin. Inutile aussi de perdre votre temps à aller dans les cinémas de boulevard. On y donne des films souvent médiocres, ceux qu'on nomme films commerciaux ou pour le grand public.
Ces mauvais films, on les appelle des navets, je crois.
C'est ça. Ces navets peuvent être des films à grand spectacle, comme beaucoup de super-productions américaines. Ou des films sentimentaux pour midinette. Ou alors des films érotiques, pour mettre en valeur les charmes d'une belle actrice.
Et qu'est-ce qu'il reste alors ?
Il reste essentiellement un certain nombre de salles qu'on appelle cinéma d'art et d'essai, disséminées un peu partout dans Paris, mais assez nombreuses dans le quartier latin. On y projette soit des films assez anciens, devenus des classiques du cinéma, soit de très bons films étrangers qui n'entreront jamais dans un grand circuit commercial, soit des films français peu appréciés du grand public, en général parce qu'ils leur passent au-dessus de la tête. Ce sont des films qui font réfléchir et qui ne sont pas faits pour les gens qui s'installent dans leur fauteuil pour digérer.
Les films étrangers sont-ils présentés en version originale ?
Dans le circuit commercial, les films étrangers sont habituellement doublés. Au contraire, dans ces salles d'art et d'essai, ils sont projetés en général en version originale, sous-titrée en français.
Et ce n'est pas trop cher ?
Non, et bien souvent, le prix est unique pour toutes les places. De plus, ces salles font presque toujours une forte réduction pour les étudiants. Il suffit de présenter votre carte d'étudiant à la caisse. Cependant, si ça vous paraît encore trop cher, vous pouvez toujours vous rabattre sur les cinémathèques.
Qu'est-ce que c'est ?
Ce sont des établissements qui constituent les archives du cinéma. Ils possèdent une copie de la plupart des films tournés depuis les origines du cinéma. Tous les jours, ils projettent 3 ou 4 de ces films à raison d'une seule séance par film. Ce sont toujours des vieux films qui permettent d'étudier l'histoire du cinéma. L'entrée n'y coûte qu'un franc.
N'importe qui peut y aller.
Oui, les cinémathèques sont ouvertes à tout le monde. Et puis, à côté de cela, il existe des ciné-clubs, c'est-à-dire des projections privées de films réservées à certains groupes, en général aux écoles, aux étudiants. Il est possible toutefois d'y assister, mais ces séances ne sont pas annoncées par les programmes des spectacles.
Comment puis-je savoir ce qui se joue aujourd'hui ?
Vous pouvez consulter les affiches qui se trouvent dans les stations de métro ou sur les colonnes Maurice. Mais le mieux, c'est d'acheter dans un kiosque à journaux une brochure spécialisée, consacrée uniquement aux spectacles de Paris. Théâtre, cinéma, opéra, musée, exposition, etc. Il en existe 2. L'officiel des spectacles, et la semaine de Paris. Ils paraissent tous 2 chaque semaine.
Et les horaires des séances, y sont-ils indiqués ?
Oui, mais pour la plupart des cinémas, ce n'est pas trop important. Ils sont permanents, c'est-à-dire que la projection se poursuit sans interruption depuis le début de l'après-midi jusqu'à minuit. Vous pouvez entrer n'importe quand et en sortir quand vous voulez.
Et que donne-t-on en plus du grand film ?
Avant le long métrage, il y a les actualités, et souvent un court métrage documentaire ou artistique. Et puis, entre-temps, on projette des réclames publicitaires pour des produits ou des magasins.
Je vous remercie beaucoup pour tous ces renseignements. Au revoir.
C'est la première fois que je peux venir au sport d'hiver. C'est que c'est loin, les Alpes. Et il n'est pas toujours commode d'obtenir un congé à Noël. Et vous ?
Oh, moi je viens assez souvent ici. Il n'est d'ailleurs pas indispensable de venir à Noël, car cette station, grâce à son altitude, jouit d'un enneigement excellent, aussi favorable à Noël qu'à Pâques, et même, ici, on pratique le ski jusqu'à la Pentecôte.
En tout cas, l'endroit paraît fort bien aménagé.
Certes. Grâce à son équipement sportif exceptionnel, c'est une station de sport d'hiver de grande classe. Les pistes sont nombreuses, bien balisées et damées. 4 téléphériques conduisent à des sommets de 3000 mètres et plusieurs remontes-pentes desservent des champs de neige situés à des altitudes qui vont de 1500 à 2500 mètres. D'ailleurs, vous devez avoir déjà descendu beaucoup de pistes.
Oh, vous savez, j'en suis encore aux premières séances pour débutants et je me limite pour l'instant au mouvement sur le plat, ou presque.
Vous verrez, ça va vite. Bientôt, vous prendrez à votre tour le téléski et vous dévalerez les pentes. Ou bien vous pourrez faire de petites randonnées en ski à travers la montagne.
Mais comment peut-on gravir les pentes tout seul ? C'est fatigant la montée en canard ou la marche en escalier.
À ce moment-là, vous chausserez vos skis de peau de phoque pour ne pas glisser en arrière. Vous n'en avez pas encore ?
Oh non ! Il a déjà fallu que j'achète tant de choses pour cette fois. Le pantalon fuseau, cet anorak, les chaussures de ski. Quant aux skis eux-mêmes, je les ai loués.
Et êtes-vous contente de vos premiers essais ? Avez-vous un bon moniteur de ski ?
Oui, il a l'air très fort. Regardez, il est justement là-bas sur le tremplin de saut. Quel bond ! Il n'a pas peur de se casser la figure. Mais il paraît qu'il aime un peu trop la vie mondaine, les boîtes, les conquêtes.
Moi, peu m'importe cette vie nocturne des stations. Ce que je cherche ici, c'est l'air pur, ces pentes ensoleillées, cette large vallée et ce massif montagneux imposant. Le ski me passionne. En ce moment, je travaille surtout mes virages pour pouvoir faire du slalom. Et puis, je ne fais pas que du ski, mais aussi un peu de patin à glace.
Où y a-t-il une patinoire ?
Là-bas, derrière ce chalet. Il y a une piste extérieure pour le patinage de vitesse, et au milieu, la place est réservée au patinage artistique.
Et à part le ski et le patin, quel autre sport peut-on pratiquer ici ?
La luge quand on est seul, et même le bobsleigh à plusieurs. C'est une sorte de traîneau articulé, muni d'un volant de direction. C'est très amusant.
C'est vraiment tout un monde nouveau que je suis en train de découvrir.